Chapitre 8. Hanna Yona s'estimait contente de la vie en général et d'elle-même en particulier. Depuis quelque temps, son cerveau n'obéissait plus à la logique et elle n'en faisait qu'à sa tête. Les filles avaient pris l'habitude et la laissaient tranquille. La vie ressemblait tout à fait à l'image qu'elle voulait s'en faire. Mais soudain, le temps qui, jusqu'à présent, suivait le mouvement de l'horloge et le changement des saisons, prenait maintenant des allures de sauterelle. Les jours qui se suivaient autrefois paisiblement se montaient maintenant les uns sur les autres, le matin avalant le soir. La vie s'était écoulée dans le passé plus ou moins sans accroc, et tout d'un coup, le changement se propageait comme un feu de ronce. La bougeotte qui avait d'abord frappé l'appartement d'Orne avait gagné les logements de ses sœurs. En un mois, le second étage s'était vidé des filles Yona et de nouveaux venus avaient amené là leurs affaires. Hanna Yona ne s'était pas encore habituée au phénomène qui frappait les résidents de ce bas monde que le ciel montrait déjà, lui, une certaine nervosité. L'automne avait assailli l'arrière-garde de l'été et dénudé les pruniers. À deux reprises, ces nuages avaient déjà versé leur pluie sur la cour. Par contre-coup, la menthe et le persil avaient redoublé de vigueur et les corbeaux poussaient des croassements de plus en plus perçants. Leurs clameurs et leur insolence l'obligeaient à se mettre les doigts dans les oreilles quand elle marchait dans la cour. Il procédait à des défilés aériens impertinents sur sa propriété. La maîtresse de maison allait, la tête basse, sentant que le ciel lui-même en était blessé. Tous ces volatiles se jetaient sur les bouleaux en trépignant et mettaient à bout les nerfs de Johanna. Elle sortait de la cuisine en fureur, serrait le bout du tuyau entre les doigts et aspergeait violemment les cimes des arbres pour les chasser. Orna était partie pour l'Amérique avec deux grosses valises, un sac à dos et l'air d'un amiral à la veille d'un combat naval. Hanna Yona et Johanna l'accompagnèrent à la fourgonnette qui devait l'emmener à l'aéroport. Elle posa la main sur l'épaule de sa mère et serra celle de Johanna. Puis, elle aida le chauffeur à poser ses valises dans la voiture. La fillette et le lièvre observaient de la fenêtre du second étage. Sa nièce lui cria
« T'en as de la chance d'aller en Amérique! Rapporte-moi une Barbie! Non, non, un iPhone! Un iPhone !»«
Elle est à vous ?» demanda le chauffeur d'un geste de menton. « Moi aussi, j'en ai une comme ça à la maison. » Orna ne jugea pas utile de le détromper. D'ailleurs, il l'oublierait dès qu'il l'aurait déposée sur le trottoir. Il s'affaira à pousser les valises au fond du coffre et les empila l'une sur l'autre. Ce faisant, il découvrit l'une de ses fesses. Hanna Yona observa. « Ce n'est pas un jour à mettre son derrière dehors, monsieur. Vous allez vous enrhumer. » Mais les oreilles de l'homme étaient au fond du véhicule et il n'entendit pas. Elle voulut toucher Orna de la main. Après tout, sa fille partait pour un an. Mais elle n'avait pas l'habitude du contact et elle ne sut comment se comporter. Sa santé était encore excellente, mais un an, c'était bien long. Dieu risquait de mettre l'accord final avant le retour d'Orne. Enfin, les catastrophes n'ont pas besoin de beaucoup de temps. Quand Dieu veut, une demi-seconde lui suffit pour vous faire tomber un toit sur la tête ou vous fiche une cacahuète dans le tube respiratoire au lieu du digestif. Elle hésitait encore entre poser la main sur l'épaule ou la hanche de sa fille ou l'enlacer, que cette dernière prit les devants et passa ses bras autour du cou de sa mère, posant sa joue contre la sienne. Hanna Yona sentit que le geste était lourd et artificiel. Sous la pression maladroite de cet ours mal léché, les os de la vieille craquèrent. Hanna Yona pensa que cela faisait sans doute bien longtemps que sa fille n'avait pas embrassé quelqu'un et que ce n'était vraiment pas son point fort. Hanna Yona, joue contre joue avec sa fille, craignit que celle-ci n'éprouve du dégoût à ce contact sec et rugueux et à l'odeur qui devait se dégager de sa bouche, mais elle ne savait comment se libérer. Au contraire, Orna resserrait encore son étreinte. « Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a pitié de moi maintenant ? Elle me refile des embrassades pour toute l'année. Oh, ah, quelle force, Ornalée! Tu me serres comme un garçon. Ça fait des années qu'on ne m'a pas serré comme ça. Là-bas, en Amérique, tu vas te trouver un mec grand et fort, hein? Il paraît que là-bas, ça se trouve à foison. Elle s'écarta un peu, de façon à ne pas l'importuner avec son haleine où filtraient encore les effluves de la bouillie du matin. Elle prit la main de sa fille et l'embrassa avant que leurs corps ne se séparent. Assise dans la fourgonnette, le visage face à la route, Orna sentait encore le contact de sa mère sur sa peau. Si elle avait eu des lingettes à sa disposition, elle se serait essuyée le cou et les lèvres. Le ciel était gris. Les bas-côtés se couvraient de feuilles mortes que le vent emportait pour les anéantir ailleurs. Cette vue l'amena à penser à la destinée humaine. Elle regardait et elle avait peur. Peut-être ne la reverrait-elle jamais. Heureusement qu'elle n'avait pas de mouchoir. Après tout, c'était sa mère. Et même en arrivant à l'aéroport, elle n'irait pas se rincer les mains et le visage pour effacer les traces de ce contact. Elle ne s'était jamais demandé si cette mère avait jamais représenté pour elle autre chose qu'un fait accompli, comme le pain et l'eau. Après cette séparation, elle n'aurait su dire si la pitié qu'elle ressentait provenait du mouvement des vis perdus dans la cervelle maternelle, des disparités de force ou encore de ce que le code génétique fabriquait une miséricorde automatique dans le maillon précédent de la chaîne biologique. Son regard tomba sur ses cuisses. Elles avaient l'air si épaisses quand elle s'était assise. Ainsi étalées sur la banquette de l'auto, on aurait dit deux boules de pâte gonflées à l'extrême. Rien d'étonnant à ce qu'elle ait oublié le goût de l'embrassade. Depuis son aventure avec Ronnie, le chef de groupe, personne ne l'avait regardée et réciproquement. Le souvenir pâleau des nuits passées chez lui ne l'avait guère encouragée à chercher un autre amour. Cela ne l'avait pas poussée à faire un effort, à maigrir, à faire de la gymnastique, à soigner sa chevelure, ses sourcils, son visage, tout ça. Et malgré tout, contrairement à toute logique, quand elle l'avait vu flirter avec la petite technicienne au décrochu et au petit derrière, elle s'était emballée. C'était vexant de voir qui la remplaçait et à quelle vitesse il s'était consolé. Le chauffeur la lorgna du coin de l'œil avant de reporter le regard sur la route. « Qui reste avec la petite, son père ?»« Oui, » répliqua-t-elle en décidant de jouer le jeu jusqu'au bout. « Quel idiot, votre mari ! Qu'est-ce qu'il fait ? » demanda-t-il en tapotant son volant. « Mon mari, il est président du tribunal régional. » Elle avait dit cela sans sourciller et sans quitter la route des yeux. Elle s'en félicita, car, à ce moment, une colonie de cigognes traversa le ciel au-dessus d'eux. Des dizaines d'ailes quittaient le champ du côté gauche de la route, s'élevaient et retombaient à droite. « Pour vrai, vous en avez pas l'air. Des grosses godasses, le jean râpé, tout ça. Ça lui est égal de vous voir comme ça? Quand même, la femme d'un juge, ça a de la classe. » « Il s'en balance. Il m'aime comme je suis. » Elle observa ses propres bras qui sortaient des manches du tricot, croisés sous son opulente poitrine. Les mains d'une femme de classe, comme Kate Middleton ou Carla Bruni, seraient plutôt fines et délicates, pendraient élégamment le long de son corps et ne se croiseraient pas comme ça sous sa gorge de paysanne fruste. « Vous avez de la veine !» Il corna furieusement sur l'auto qu'il avait doublé sur sa droite et tous deux se plongèrent dans un profond silence. Elle regardait le vol des cigognes en noir et blanc qui lui rappelait un film sur la déception. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas vu d'oiseaux, à part les corbeaux de la maison. Elle passait ses journées à son usine, toujours sur son ordinateur, à commander une équipe d'ingénieurs, et tous les 3 mois, elle leur décernait une appréciation qui allait décider de leur avenir, pour la vie ou pour la mort. L'inspectrice Ornayon, un rouage plein d'ambition et de suprématie dans le processus de la fabrication de puces. Elle passait son temps dans des salles climatisées et éclairées au néon et se prenait pour le centre de l'univers. Elle réprimandait et félicitait et siégeait dans des réunions cruciales pour la suite des événements et l'emploi du budget, mais en fait, elle était complètement coupée du monde concret. Elle contribuait à fabriquer des mémoires à l'état solide, mais oubliait de développer la sienne propre. Et pendant qu'elle forçait les blocs de silicone à travailler, des cigognes s'envolaient et se posaient, des champs se labouraient et des récoltes se faisaient, et des enfants naissaient. Des gens se quittaient et se réunissaient, et l'horloge biologique avançait. Ils passèrent la barrière de contrôle et s'arrêtèrent le long du trottoir réservé à la descente de passagers. Le chauffeur déchargea les valises. Elle paya la course, posa ses bagages sur un chariot et aperçut sa silhouette qui se reflétait sur les baies vitrées de la salle des départs. Elle était lourde, dure et bien loin de ressembler à la femme d'un juge du tribunal régional. Elle partait pour un an en Arizona. Elle allait étudier les entrailles de machines sophistiquées que l'usine avait achetées au prix de dizaines de millions de dollars la pièce. Elle se faisait une carrière au lieu de s'occuper de sa vie. Les portes s'ouvraient devant elle et se refermaient après son passage. Dès son entrée dans la salle des passagers, elle ne pensa plus à la carrière et à la vie, et les cigognes s'étaient envolées. Elle poussa son chariot jusqu'au comptoir, se défit de ses bagages et se rendit au centre hors taxe. Elle n'acheta rien qu'un sandwich et un café. Assise à une table devant les pistes de décollage, elle ne prêta pas attention au ciel qu'on pouvait voir par l'espace vitré, ni aux oiseaux de chair et d'os, ni aux volatiles de métal. Elle posa devant elle une liasse de papier et se plongea dans l'étude de croquis, de chiffres et de diagrammes de logiciels. Tout en mangeant, occupée à sa lecture, elle ne s'aperçut pas de la présence de quelqu'un debout près d'elle.
« Aïe ! On peut s'asseoir ?»
Elle releva le nez, les joues gonflées des morceaux de pain et de tomates qu'elle avala d'un trait et répliqua de même. C'était Moche, de la division de planification de l'usine, qui posait son café sur la table et attirait une chaise. Il attendit que la préposée au nettoyage passe sa serpillière sous la chaise et il s'assit en face d'Orna. Ils se rendaient tous deux à la même usine mère, en Arizona, d'où sortait la bonne parole de l'entreprise internationale qui allait être mise en pratique dans les installations dispersées aux quatre coins du monde. Elle partait pour un an, lui pour 5 mois. Ils parlèrent de leurs tâches respectives et des questions brûlantes qui occupaient l'usine. Ils montèrent ensemble et s'assirent à leurs places respectives, séparés par quelques rangées de sièges. De temps en temps, l'un ou l'autre se levait pour se dégourdir les jambes et allait se pencher sur le dossier du siège de l'autre. Elle demanda « C'est quoi ce nom, Moche ?» Moshe, Moïse. Il était debout et elle voyait son menton et la pointe de sa paume d'Adam qui formaient un triangle parfait. À la question de l'origine du choix de ce nom, il répondit qu'on l'avait appelé ainsi par honneur au libérateur du peuple d'Israël et qu'il sortait d'une famille pratiquante. Il se plaqua au siège pour laisser passer une hôtesse. Orna pensa qu'il vivait en bonne harmonie avec son nom et que seuls les gens pratiquants appelaient encore leurs enfants Moïse. Il sourit. « Ce n'est pas si récent que ça. Ma circoncision date de 36 ans. Moi aussi, j'ai 36 ans. » Elle regretta cette répartie. Elle ne savait si cela serait à son avantage ou à son détriment. En général, elle ne s'occupait guère du rapport entre son physique et son âge. Et maintenant, cela faisait irruption dans sa vie. À la faible lueur des plafonniers, il semblait avoir plusieurs années de moins qu'elle. Elle essaya d'arranger un peu sa posture et de se croiser les jambes. Mais l'espace entre les sièges ne le permettait pas et elle renonça. « Alors, tu sors d'une famille pratiquante? Quand as-tu lâché ?»«
Je n'ai jamais lâché, je suis dedans. Seulement, je ne me promène pas avec une calotte sur la tête.
Celui d'en haut n'a pas besoin d'un signe de reconnaissance pour m'identifier. » L'avion trembla. Le dieu de Moche envoyait des signes célestes qui invitaient les passagers à se serrer la ceinture. Moche retourna à sa place et Orna obtempéra à l'ordre. Elle pensa « Nous nous sommes croisés des centaines de fois dans cette usine en lâchant un « Hi » indifférent. De temps en temps, nous avons participé aux mêmes réunions. Il ne se met jamais en avant. Il est assidu, fidèle, mais non pas brillant. Et le voilà avec la poitrine au-dessus de moi. Je lui vois le menton et les quelques poils qui ont échappé au rasoir. Les pensées qu'on a ici, on ne les a pas là-bas. » Elle ignorait ce que ses collègues pensaient d'elle et comment ils résumaient sa personne. Vraisemblablement, lui comme les autres, il levait le coude à son passage et disait « Celle-là, elle s'est mariée avec le boulot. Elle est dure, professionnelle, ambitieuse et fidèle. Et elle s'habille comme une planche à repasser. Elle n'a pas un brin d'humour, rien. » À cause de ce qu'on voyait d'ici, c'était peut-être une bonne chose qu'ils se rendent au même endroit. Mais sa bonne humeur d'un moment retomba immédiatement. Quand ils se retrouvèrent près du tourniquet pour prendre leurs bagages, elle demanda « Alors, ta femme t'a laissé partir pour 5 mois ?»« Je ne suis pas mariée. » Il se baissa pour amasser sa valise. Comme il luttait vainement contre le mouvement du tourniquet, elle avança la main pour l'aider, mais il s'était déjà débrouillé tout seul. Ils marchèrent ensemble vers la sortie en poussant leur chariot et se promirent de se revoir le lendemain à l'usine. Chacun alla prendre sa voiture à sa société de location. Orna mit ses valises dans le coffre de la Chevrolet Cruze, couleur métal, et se mit au volant. Elle étudia le tableau de bord et mit en marche le GPS. Elle prit la grande route et se sentit forte et capable de tout. Mais elle n'était plus une gamine. Elle savait que la légèreté de l'existence dépendait du mouvement régulier des roues, de leur emprise douce sur la route, de la posture sur le siège, du vent du désert, des espaces immenses et de l'aridité infinie d'un horizon à l'autre, et puis aussi de cette phrase « Je ne suis pas mariée » qu'il avait prononcée en se battant avec l'automatisme aveugle du tourniquet. Quelle bêtise ! Elle n'avait plus 16 ans et elle n'attendait rien de plus qu'une relation amicale. Elle voulait avoir quelqu'un avec qui parler, c'était tout. Mais même pour de l'amitié, il fallait avoir de la chance. Évidemment, s'il était marié, le besoin n'aurait pas été mutuel. Le vent du sud formait des dunes de sable à dos de tortue et tissait des rideaux de poussière à l'horizon. Advienne que pourra. Laissons la vie faire son travail. J'ai le contrôle de ce que je peux, pas davantage. Pas un seul des milliards de grains de sable de cette infinité ne savait si le vent allait l'enlever ou l'oublier, et aucun n'avait d'influence sur lui. Il fallait laisser faire la chance, et on avait eu des surprises dans le passé. Pouvait-on prévoir un mois plus tôt que le second étage allait se vider d'un coup? Qui eût dit que Yarden allait quitter son Tsachi, le patron de ses jours et le champion de ses nuits, et qu'elle s'en irait avec sa gosse vers une autre ville? Qui aurait deviné que la vieille allait s'enticher d'un Bruno sénile sortant d'un asile? Et Simone, l'eau qui dort? Qui eût soupçonné qu'elle aurait dit comme ça « Je vais me faire un enfant » Elles étaient toutes les deux sur la galerie et contemplaient le parc national que Johanna venait d'inaugurer dans la cour. Les souvenirs affluaient. Simone déclara « Je me suis inscrite là-bas et j'ai commencé les examens. » Un corbeau vint se percher sur le parapet et se mit à piquer dans la pierre. « Un don de sperme ? On peut appeler ça comme ça. » Simone suivait le corbeau des yeux. Les gens qui voient dans cet animal l'annonciateur d'un mauvais présage se garderaient bien de faire part d'un enfant qu'ils projettent devant cet intrus. Mais Simone le regardait avec indifférence. Quand Orna leva la main pour le chasser, elle prononça « Laisse-le, ce n'est qu'un oiseau. Et puis, Je suis protégée, j'ai pendu des chemises rouges à ma fenêtre. »
Toi ?
Moi, répondit-elle en riant, puis reprenant son sérieux.
Alors, tu pars ?
Qui sait ? Quand tu reviendras, j'aurai peut-être un enfant.
Le soleil éclaira l'œil du corbeau qui brilla d'un éclat transparent.
Orne avait cette espèce en horreur. C'était un oiseau dégoûtant et inutile. Mais qui pouvait-il lui-même ? Il ne s'était pas créé tout seul et il n'y pouvait rien. Ni lui, ni elle, ni personne ne savait éviter les caprices de la nature. Il n'y avait pas chez qui porter plainte. Elle n'avait pas choisi d'avoir les hanches si larges et les bras si épais, et ce petit dégueulasse n'avait pas opté pour son bec crochu, pour les charognes dont se composait son menu, pour sa couleur déprimante et pour ses pattes courtes. À plus forte raison, n'avait-il pas décidé de se faire le propagateur des mauvaises nouvelles et de s'installer sur la faux de la Camarde ? Il se balançait sur le parapet lorsque ses nerfs reçurent un ordre et il piqua d'un vol vers la poussière de la cour. Il fouillait dans les mottes humides, jetait autour de lui des petits blocs de terre et cherchait des plus faibles que lui. Toutes deux le suivaient des yeux. Orna pensa à la longue période d'abandon de ce lopin, aux journées de désolation qu'avait connues ce gravier, à ces pierres qui conservaient encore en elles des atomes perdus de l'âme de leur père. Qui sait quelles femmes elles auraient été si elles s'étaient levées chaque matin devant du persil en branche et des plants de carottes au lieu de ce dénûment atroce si jalousement gardé. Simone a contemplé, elle aussi, la cour, mais elle devait avoir des pensées de notre ordre, car elle déclara.
« Il faut être siphonné pour croire qu'il y a un œil qui nous veut du mal et qui se taille à la vue de chiffons rouges. »
« Alors, pourquoi les as-tu pendus ?»«
Je ne sais pas. Comme ça, une pancarte de sottise contre la peur. J'aurais pu mettre des crânes d'ermite, des gousses d'ail ou un scalp de lapin. C'est tout pareil. Et puis, si ça ne peut pas faire de bien, ça ne peut pas faire de mal non plus. »
Orne la regardait du coin de l'œil.
« En fin de compte, même ceux qui font preuve du plus grand cynisme ont la trouille. »
Elle essayait de se représenter Simone avec un bébé sur les bras et n'y parvenait pas. Sa sœur avait des mains fines et fortes. Le dos d'un nourrisson se briserait au contact de ses avant-bras osseux. À part ça, les mains de Simone avaient été dressées à introduire des seringues dans les veines, à couper, à tâter et à presser des chairs meurtries. Elle n'avait rien en commun avec un bébé. Après un long dialogue avec la Chevrolet Cruze dans le désert de l'Arizona, elle arrivait à la conclusion que les puces, ce n'était pas l'essentiel dans la vie. De notre côté, il y avait là une partie perdue d'avance et les cigognes n'y changeraient rien. À propos de cigognes, elle se reprit à penser à Simone et au bébé qu'elle aurait ou n'aurait pas. Elle était prête à parier que, pour le moment, Simone ne ferait pas le pas. Orna avait tort. Simone avait déjà passé tous les examens derrière les paravents verts. Lorsque tous les résultats étaient revenus, le professeur qui dirigeait le département de la fécondité de la femme lui annonça lui-même que ses organes génitaux étaient en parfait état. Elle l'écouta et pensa « Je me sens comme une Renault qui aurait passé le test. Le pot d'échappement correct, le châssis en bon état, les freins, ça va. » Il aurait pu me dire « Vous pouvez commencer la grossesse et devenir mère. » Mais il n'avait pas quitté des yeux mes entrecuisses. Sa spécialité, c'était l'examen des organes génitaux et leur réparation le cas échéant. Au septième, on réparait les cervelles, au cinquième les os, au second le sang et au moins un le système digestif. Mais on oubliait parfois que lorsque tous ces organes sont inclus dans le même sac, on appelle cela un homme. Simone ne se croyait pas meilleure que les autres. Elle non plus ne se souvenait pas toujours qu'il y avait un cœur quand elle écoutait les poumons. Elle s'était relevée en remerciant le professeur. Il lui avait souhaité une bonne réussite en l'accompagnant d'un sourire professionnel. Michael avait l'air au bout du rouleau.
Elle vint lui annoncer que ses organes génitaux étaient en bon état et qu'il pouvait encore se rétracter avant qu'on ne procède au dégel de la semence. Mais elle ne prononça mot. Elle se paniqua et fit semblant que tout était normal. Ce n'était pas l'enflure qu'avait causé la drogue qui l'inquiétait. Des gens gonflés, elle en avait vu. Ce n'était pas non plus la pâleur, ni le cou décharné sur la clavicule saillante, ni même les yeux enfoncés dans leurs orbites. C'était autre chose. Le Michael qu'elle connaissait avait disparu de lui-même. Les os des joues étaient absents, de même que les rides, de la décision, du rire et de la colère. Il était comme étranger à lui-même, une pâle ombre de soi. C'était surtout la main sur laquelle il laissait reposer son menton de ce geste si fréquent chez lui. La maladie lui avait ôté les lignes caractéristiques que lui avait donné le code génétique et la vie. Il était devenu un patient oncologique éteint comme les autres, comme toute cette série de gens chauves, gonflés, ronds de visage et gris de peau. On aurait dit qu'il avait cédé devant la maladie et n'opposait plus de résistance. Il la laissait prendre sur lui ce qu'elle voulait et autant qu'elle voulait. Elle demanda à tout hasard. « Quoi de neuf ?»« Comme tu vois, ça ne va pas fort. On m'a injecté un poison foudroyant. Ils essaient un nouveau traitement. » « Tu as accepté ?»« Si j'ai accepté, répliqua-t-il en riant, je les ai suppliés de m'y mettre. Tu sais bien que je n'ai pratiquement aucune chance de continuer ma vie à l'image de l'homme. Alors j'ai signé que j'étais prêt à jouer au cobaye. » « Tu as une âme de joueur invétéré, » dit-elle en cherchant les mots. Il était assis sur le lit, le dos au soleil dont les rayons se brisaient sur le bord de la fenêtre. Le mot « joueur » lui rappela le jour où Michael avait lancé une pierre sur une barrique à plusieurs dizaines de mètres. Tous deux marchaient sur la plage. Quand il vit le tonneau, il déclara « Si je ne le touche pas, je rassemble trois mendiants et je leur fais un exposé. » Il manqua son coup. La pierre passa à quelques millimètres de la barrique. Ils remontèrent et cherchèrent des mendiants rue Aliambi. Le premier n'avait pas de jambes. Il y avait peu de chances qu'il bouge avant que Michael n'en ait ramassé deux ou trois autres. L'homme était couché sur un matelas lamentable et ses membres manquants parlaient pour lui. Ils notèrent l'emplacement et continuèrent. À quelques 8 magasins de là, ils rencontrèrent une mendiante pitoyable et échevelée, assise sur le trottoir, blottie dans ses haillons et agitant une pièce de monnaie dans une petite boîte. Michael terminait son stage. Ses mains avaient déjà touché à tous les pus les plus épouvantables et ne reculaient devant rien. Il se pencha, poussa de côté une mèche de cheveux gluants qui lui cachait le front et lui dit « Ma mignonne, je veux te donner quelque chose. »« Eh bien, tant mieux » répliqua-t-elle en montrant des gencives édentées. « Viens avec nous » ajouta-t-il de sa voix impérieuse et douce, tout en la relevant. « Qu'est-ce que tu vas me donner ?» Elle s'arrangea un peu et trottina derrière eux jusqu'au matelas de l'infirme. « Ah, c'est Samy. Avec ses jambes coupées, il ramasse pas mal. C'est pas de jeu. » Michael la pria d'attendre jusqu'à leur retour et elle lâcha un chapelet de jurons. « Tu as dit que tu me donnerais à moi, pas à Samy. Ici, c'est le terrain à Samy. Ce chien sans pattes, tout le monde lui donne. Moi, ils disent que j'ai des jambes et ils donnent rien. Mais c'est pas vrai. J'ai la cobrosion aux jambes. Ça brûle comme le feu. « Vaudrait mieux qu'elle soit coupée. » Elle continua à raconter ses malheurs et à maudire les chiens sans pattes qui font des affaires d'or. Mais le ton ferme et doux de Michael avait suffi et elle demeura sans bouger sur le terrain de Samy. Pendant que le médecin s'éloignait à la recherche d'autres étudiants éventuels, Simone, adossée à la devanture d'un magasin, tenait du regard la mendiante en respect, de crainte qu'elle ne prenne la poudre d'escampette. Michael revint avec deux auditeurs. Le premier, à sa droite, était un homme âgé, chétif et voûté, avec des souliers trop grands pour lui. Le second, Un jeune homme au visage rougi par l'alcool et l'hypertension boitait à sa gauche. Le plus jeune se taisait, le vieux jurait et riait tour à tour. Tous deux connaissaient Samy et s'accordaient avec leurs collègues sur l'avantage que représentait l'absence de jambes dans leur métier. Michael tira le cul de Jatte par la manche et l'obligea à s'asseoir. L'homme se mit sur un coude et protesta.
« J'ai rien fait, je salis pas. Regardez, je ne prends pas de place sur le trottoir. »
Il débita le répertoire habituel avec lequel il recevait la visite des inspecteurs municipaux chargés de le réprimander. Michael fit s'asseoir les trois autres à côté de lui, les pria de s'adosser au mur d'un bâtiment public et veilla à ce qu'ils n'empiètent pas trop sur le trottoir. Ils se disputèrent sur la place que chacun occuperait le long du mur. Le plus jeune se taisait et les trois autres s'insultaient les uns les autres, mais en fin de compte, tout le monde obéit à Michael. Ils s'assirent tous le dos au mur, comme si l'ordre venait directement de la mairie. Michael s'assit en tailleur sur le trottoir et s'adressa à eux en ces termes. « Bonjour, mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui de l'eau. » Le paralytique bâilla et chantonna. « De l'eau dans la joie, de l'eau dans la joie !» La mendiante s'écria. « Tu as dit que tu me donnerais quelque chose !» Le vieux regimba. « Ferme-la, putain !» Quant au plus jeune, il jouait avec son lacet et se tenait quoi. Michael, très décontracté et indifférent à la curiosité et au ricanement de la rue, ne prêtait pas attention au regard glauque de l'infirme ni aux plaintes de la mendiante. Il leur expliqua que le corps humain était fait en grande majorité d'eau. Le vieux ouvrit la bouche et les yeux tout grands et tendit la main en se frottant l'index au pouce dans un geste qui signifiait « Donnez-moi de l'argent !» Les passants s'arrêtaient. Le cercle des badauds se resserra sur Michael et les gens passaient la tête entre les épaules de leurs contemporains pour profiter du spectacle gratuit qui leur était offert. Le jeune mendiant se cacha la tête entre les jambes, la femme cria qu'elle avait mal, le vieux lui dit « Ferme-la, putain !» et le paralytique montra ses membres coupés. Michael demanda « Chers amis, comment savons-nous qu'il y a de l'eau dans le corps ?» L'infirme répondit « On pisse ? Quelle question ! On pisse !» Le vieux déclara « On crache ! Pfou ! Sur ta gueule !» La mendiante expliqua « On sue, voilà !» Le jeune se contenta de dire « On pleure !» Michael s'écria « Bravo !» Encouragé par cet accent de satisfaction, trois d'entre eux tendirent le cou et l'oreille vers l'orateur. Le jeune releva la tête. Michael, heureux de leur coopération, mit un peu de son charme à contribution. Il en avait la pratique, savait maîtriser un public et aimait constater le résultat dans l'éclat qu'il parvenait à faire naître dans les yeux. Il leur raconta ce qui arrive à un corps qui manque d'eau. Il leur parla de fleurs et d'oiseaux assoiffés. Il conta l'histoire de la femme dans le désert qui avait jeté l'enfant dans un buisson et disait ne pouvoir supporter de le voir mourir. Le vieux au juron déclara « C'est Agar, cette putain de la Bible. C'est celle-là, la mère à Ismaël, cet arabe. Tfou, Alec !» Ils considéraient Michael comme leur jardinière d'enfants à l'heure de l'histoire. Ils étaient quatre vieux enfants habitués au son de la monnaie dans le métal et aux injonctions du département des foule-camps, des bouges, et des « Enlève ta saleté d'ici !» Quand quelqu'un s'était jamais adressé à leur cerveau et avait-il pénétré sous leur peau rugueuse, leur cuir chevelu et leur crâne desséché ? La voix de Michael agit sur la mendiante comme une berceuse et elle s'endormit. La tête reposa bientôt sur la poitrine et la main serrait la poche de la robe. Michael regarda autour de lui et s'adressa au public derrière lui. « Écoutez, vous aussi, mes chers amis !» D'une phrase, il avait mis dans le même sac les passants et les mendiants. « De l'eau, mes amis, buvez au moins 12 verres d'eau par jour. Prenez une bouteille en sortant de chez vous. »« Ah ! fit une femme derrière lui.
Il est de Vichy, vous avez vu le truc ?
Sans se retourner, il répliqua.
Non, madame, j'appartiens à la Compagnie des Eaux. Ne gaspillez pas votre argent dans de l'eau minérale, chers amis. Buvez de l'eau du robinet, rien que de l'eau du robinet. C'est l'eau la plus pure et la plus saine.
La controverse allait croissant au sein du public qui se pressait en foule. Un agent de police se fraya un chemin et s'enquit du sujet de la manifestation. Il mit la main sur l'épaule de Michael et lui demanda ses papiers.
« De quoi vous occupez-vous ? »
« De la santé publique. » Michael sortit sa carte d'identité de son portefeuille et la tendit à l'agent. Celui-ci scruta le jeune porteur du document avec ses vêtements qu'on porte au bord de la mer, ses sandales de douche et son assise en tailleur devant ses quatre timbrés qu'on aurait dû enfermer depuis longtemps. Le policier lui rendit la carte en ricanant.
« Vous allez me dire que vous êtes médecin aussi ?»«
Je suis médecin. »
« Et moi, pilote de ligne !»
Tout le monde éclata de rire.
« Allons, docteur, dispersez votre manifestation, vous n'avez pas reçu de permis. »
Rire général. Michael ne se dépêchait pas. Il fouilla dans son portefeuille et en sortit 4 pièces de 10 shekels qu'il distribua à ses élèves. La mendiante se réveilla et jura. Elle s'attendait à mieux. Les 3 autres empochèrent l'obol. Michael se leva et, de toute sa hauteur, droit et sûr de lui, s'adressa aux 4 encore occupés à presser leur argent. « Et n'oubliez pas, chers amis, buvez beaucoup !» Maintenant qu'il était debout, il faisait grande impression sur le public. 3 jeunes femmes le toisaient, échangeaient leurs impressions et riaient. Michael fit signe à Simone qu'il arrivait tout de suite. Mais avant de se frayer un passage vers elle, il s'adressa à l'agent. « Monsieur l'agent, n'oubliez pas, 12 verres d'eau par jour, ne vous déshydratez pas !» Il quitta le cercle des badauds et la rejoignit. Adossée à la devanture d'un magasin de chapeaux, elle contemplait la scène. Il lui posa la main sur l'épaule et lui dit à l'oreille. « Le pari le plus insolite que j'ai jamais fait, je me demande d'où c'est venu. » « Ils sont sympas, ces 4-là, non ?» Elle passa en revue dans son esprit tous les collègues de son amie et tous les étudiants de la fac de médecine qu'elle connaissait. Aucun ne semblait se sentir si bien dans sa peau. Il n'avait pas une molécule de trac dans le corps. Il était totalement libéré des convenances et du candidaton, se regardait au fond de l'âme et n'hésitait jamais. S'il venait à cesser de l'aimer, elle l'apprendrait tout de suite. Il la prit par l'épaule et l'enlaça par la taille. Ils marchaient rue Allenby et s'arrêtaient pour s'embrasser. Elle espérait que tout ce bonheur ne portait pas en lui l'approche du pas suivant. Elle pensait que, dans le ventre de chaque joie, poussaient les embryons de la prochaine douleur. Des vapeurs salines montaient de la mer et remplissaient l'air. Le soleil couchant se couvrait de voiles roses foncées. Tout donnait à croire qu'à cet endroit et à ce moment, ce bien-être durerait longtemps. De cet homme-là, il ne restait plus grand-chose dans l'individu assis au bord du lit et respirant lourdement le dos au mur. Elle ne savait si la tumeur avait atteint les cellules de l'âme et avait fait en lui une métamorphose. Il semblait abattu et frappé, et elle se demandait s'il fallait lui rappeler ce fameux pari. Elle craignait que les souvenirs de la mer et de la rue, du charme et de la gloriole, ne ravivent en lui le sentiment de la diminution et de la misère. D'un autre côté, le silence aurait été encore plus violent et insupportable que la parole. Il fallait bien dire quelque chose. Dans les occasions où l'avenir semble précaire et bref, il vaut mieux parler du passé. Elle lui décocha à l'improviste.
« Tu te souviens du coup des 4 mendiants ?»
et regretta immédiatement la question. Que gagnerait-elle à s'apercevoir qu'il a perdu le sens de l'humour et que la mémoire ne fonctionne plus ? Il tenait sa tête dans les épaules et les poings sur ses cuisses. Il la regarda de son air de Bouddha imberbe et sans cils. « Tu sais ce qu'il y a de pire ? Que la mendiante n'était pas contente. » Si c'est ça le pire, notre situation est des meilleures.
Excuse-moi, je ne peux pas rire. J'ai des aphtes plein la bouche. Je voulais passer un jour et les dédommager. Désolé, je n'ai pas eu le temps.
Il n'est pas trop tard, répliqua-t-elle, sachant bien qu'il était déjà bien tard, mais voulant quand même dire quelque chose.
Quand il n'y a pas de mur, on en fabrique un avec des mots, un mélange de ciment, de plâtre et de trois fois rien. C'est une couverture sur le néant. Chez les animaux, ça marche autrement. Tant qu'il y a de la force pour piauler, il piaule, puis il grogne et enfin il se taise. Et le reste arrive tout seul, comme par un effet de la nature.
Simone avait entendu dire que les moutons qui sentaient leur fin proche s'éloignaient du troupeau et allaient mourir tout seuls pendant que les autres continuaient à brouter et respectaient leur intimité. Michael s'enveloppait des quelques kilos que la maladie lui laissait et restait là avec son air de Bouddha. Il n'avait pratiquement pas bougé depuis l'entrée de Simone et ne s'était même pas efforcé d'animer la conversation. Attentive au mouvement ou à la fixité de tous les muscles, elle s'approcha du lit et lui posa la main sur l'épaule.
« Couche-toi, veux-tu ? À toutes mes visites ici, je te trouve toujours assis. Et à part ça, je suis venue te dire que mes organes génitaux sont tous en excellent état. Alors, en avant !»
Il ouvrit le poing et leva la main d'un air de dire « Vas-y, vas-y !» Puis il ajouta
« Et puis, tant que je le pourrai, je préfère être perpendiculaire à la terre. J'aurai toute l'éternité pour me coucher. Et en plus, j'ai des douleurs terribles quand je suis étendue. »
Une infirmière passa la tête d'un air inquiet.
« Comment va ?»«
Toujours en vie, » fit-il, s'efforçant en vain de sourire.
« C'est déjà pas mal dans les conditions présentes. N'oubliez pas, on vous a refilé une dose qui pourrait tuer un éléphant. Que voulez-vous manger ?»«
Rien, de la gelée peut-être. » Un moineau se posa sur le rebord de la fenêtre, y déposa quelques aiguilles de pain qu'il tenait dans son bec, se promena un moment sur la pierre, puis étendit les ailes et s'envola vers les pentes boisées. On apporta à Michael quelques coupes de gelée et le moineau revint avec de nouvelles aiguilles qu'il déposa sur les autres.
Simona lui toucha la joue et le força à regarder vers la fenêtre.
« Regarde cet oiseau qui fait son nid !»«
Oui !» Il n'a rien trouvé de mieux au monde qu'une fenêtre du département d'hématologie pour bâtir sa villa, répliqua Michael en suivant des yeux l'oiseau qui sautillait du côté bien portant de la vitre, là où la vie se déroulait comme elle le devait.
Simone remarqua.
« Regarde ce petit bout de chou, 200 grammes de vie, un mécanisme parfait de nerfs et de muscles. Il est si petit. S'il était malade comme toi, il serait mort depuis longtemps. Dans son secteur à lui, il n'y a ni chimio, ni radio, ni pitié. »
L'oisillon allait et venait, pressait les aiguilles l'une contre l'autre de ses petites pattes et d'un coup s'envola.
Michael tourna la tête.
« Oui, chez ces gars-là, il n'y a pas de pitié ni de semences congelées. Alors, tu y vas ?»«
Oui !»
La réponse était claire et nette. Elle se sentit soudain écœurée de cette marche sur la pointe des pieds et demanda à brûle-pourpoint.
« Et la doctoresse sexy, vous êtes encore en contact ?»«
Noga ?
Oui. »
C'était le tour de Michael de répondre nettement.
« Excuse-moi de me mêler, mais vous êtes ensemble ?»«
On peut appeler ça comme ça. »
Un bruit d'ailes et le choc de bec sur la vitre le ramenèrent à la fenêtre. Pour regarder, il devait se tourner tranche par tranche, membre après membre. Il tourna d'abord le buste et les épaules, puis le cou lentement et enfin la tête. À la lumière du jour, son visage luisait comme du marbre gris. Deux petits oiseaux se démêlaient dans un bout de ficelle verte, s'aimaient et piaillaient. Leurs petites pattes couraient transparentes sur le ray de lumière. Tout en les observant, Michael prononça.
« Écoute,
Ce qu'ils m'ont donné aujourd'hui va fixer mon destin pour la vie ou pour la mort.
Alors, j'attendrai la réponse.
Simona pensa. S'il guérit, il ira avec la femme qu'il aime, il aura des enfants et se passera bien de traîner un sac de codes génétiques supplémentaires derrière lui. Mais il dut lire ses pensées.
« Pas de bêtises, Simone. Vas-y maintenant, pas de retard. »
Il se retourna vers l'intérieur de la chambre avec des gestes lents, le buste et les bras d'abord, puis le cou et enfin tout le visage. Elle arracha le couvercle d'une coupe de gelée qu'elle lui tendit.
« Prends ça !»
Il mangeait lentement. Il avait du mal à avaler et prenait un temps entre deux cuillerées. L'aventure avec la doctoresse ne devait en rien influencer sa décision à elle.
« C'est l'histoire d'une maladie incurable. Cela n'aura pas d'horizon, tu sais bien. »«
Hé là ! Ils t'ont empoisonné ce matin pour repousser ton horizon de 30 ou 40 ans. »
Elle se tut. Il se mordit les lèvres. Il avait mal partout. Parler de 30 ou 40 ans dans son état, c'était comme évoquer un iceberg dans le Sahara. Il bougeait sur son séant. Après avoir réparti la douleur de façon à peu près égale entre ses membres, il demanda à boire. Elle remplit un gobelet qui se trouvait sur la commode à côté du lit et le lui tendit. Il approcha le récipient de ses lèvres, mais sa main tremblait et l'eau dégoulina sur son menton. La guerre de Gog et Magog, tissu contre tissu, os contre os. On ne pouvait séparer l'homme Michael de sa maladie. On n'avait pas encore inventé la passoire qui permette de diviser la personnalité et les cellules malades. « Le sang, c'est l'âme », avait dit la Bible. La jeune doctoresse n'avait pas connu Michael en bonne santé. Quand il serait rétabli, ils devraient tous deux recommencer à zéro. Ils seraient étrangers et différents. Quand serait-il rétabli ? Dans l'état où il était ? Simone apporta les yeux sur la fenêtre. Elle ne voulait pas voir l'eau s'agiter dans le gobelet et se répandre sur sa chemise. Les oiseaux continuaient leur besogne, apportaient des aiguilles et repartaient à tire-d'aile, libres et sans souci. La respiration de Michael remplissait la chambre. Comment Simone ne l'avait-elle pas entendue jusque-là ? Non, tout à l'heure, il ne soufflait pas comme ça. Il était moins pâle et ne suait pas comme un cheval.
« Couche-toi, Michael !»
Elle passa la main sur son dos. Il était trempé. Des gouttes de sueur perlaient sur son cou et sa nuque. Comme elle allait au robinet remplir le gobelet, il s'effondra. Elle entendit un choc, se retourna et le vit couché par terre sur le dos, livide comme un mort. Elle sonna vivement, plaça des coussins sous ses pieds, lui releva les jambes, lui ôta ses chaussons, lui tira la main de côté de façon qu'elle ne fasse pas pression sur le cœur. Elle lui souleva les paupières et vit les prunelles étroites et convulsées. Elle entendit sa respiration et se sentit soulagée. Il n'était pas mort et n'avait pas même perdu connaissance. Deux aides et une infirmière le soulevèrent et le portèrent sur son lit. Trois médecins et un chariot de réanimation se postèrent près de lui. Et tout ça sous le regard des oiseaux qui sautillaient sur le rebord de la fenêtre et cognaient du bec à la vitre. Ils étaient 6 sur 1. Simona se sentit inutile et sortit. Elle ne connaissait que trop les heures héroïques de la médecine, la lutte conjointe de la pharmacologie, l'électricité et l'ambition, contre la biologie et ses processus. Elle ne voulait pas voir Michael revenant à lui et apercevant ses 12 yeux fixés sur lui et la machine de réanimation braquée sur lui. Elle se hâta de quitter le département et pensa qu'elle irait un jour à Tel Aviv, rue Aliembi, qu'elle chercherait la mendiante en question et qu'elle lui donnerait ce que Michael n'avait pas eu le temps de lui accorder. Si elle ne la retrouvait pas, elle s'adresserait au paralytique ou aux 2 autres ou au premier qu'elle rencontrerait sur sa route. Mais que personne ne lui dise que cet acte de bonne volonté provenait de son impuissance ou de son besoin de faire quelque chose quand il n'y avait plus rien à faire. Arrivée à la porte de sortie, elle s'arrêta et se retourna. Peut-être les verrait-elle sortir, vainqueurs ou vaincus ? Mais ils ne sortirent pas. Se retournant à nouveau vers la porte, elle aperçut la jeune femme en blouse blanche qui entrait furtivement dans le compartiment. Elle se félicita d'être sortie à temps. C'était tout à fait juste que la femme qu'il aimait se trouve à ses côtés au paroxysme du drame. Elle monta dans sa voiture, démarra, quitta l'hôpital et prit la route qui séparait les choses finies du renouveau. Elle allait voir Julia, la femme en rouge, qui avait loué l'appartement et devait s'installer ce jour-là avec son fils. Simone a donné 13 ou 15 ans à l'adolescent. Ses yeux limpides et ses mains fines donnaient à penser que des jeunes gens dans son genre auraient pu inciter Thomas Mann à écrire quelque chose comme « La mort à Elia Capitolina ». Il aida sa mère à transporter leurs bagages, puis il posa sa main fine sur le parapet. Il contemplait la cour et Simone à l'observer. Il grandirait et il irait là où les jeunes gens allaient. Il ignorait qu'il avait laissé ses yeux et ses mains dans le cœur de Simone et qu'aucun Michael, aucun cancer, aucune guerre ne pourrait plus arracher à cette femme les quelques mots que sa vision avait fait entrer en elle. « Je veux un enfant !» Elle ne le voulait pas forcément avec des boucles noires, seulement avec de la cervelle. Elle s'appuya sur le parapet près de lui. « Comment vous appelez-vous ? » « Adam. » Sa voix était plus profonde que son apparence n'eût donné à penser. Cela troublait un peu l'harmonie de la finesse, de la souplesse et de la noblesse de sa personne. Tout en lui indiquait qu'il était à la veille du raz-de-marée des hormones qui allait submerger sa personne, la durcir et l'endurcir. Il atteignait les 5 dernières minutes de l'âge où les pleurs et la retenue reçoivent la même commisération. « Adam, quel joli nom !» Mais il serra les épaules, montrant nettement qu'il désirait qu'elle le laisse tranquille. « Adam, vraiment un joli nom. Tout ou rien. » Sa mère avait agi sagement en le laissant libre de devenir ce qu'il voudrait. Elle ne lui avait pas imposé des liens avec la Bible, Dieu, l'histoire, le peuple et la famille. Adam, tout court. Un nom qui n'attendait de son possesseur que le minimum, à savoir ne pas se comporter comme une bête. Accoudée au parapet, Simona regarda en bas dans la cour et aperçut le locataire de sa mère qui observait le second étage. Il se tenait derrière son rideau et serait resté inaperçu, n'était-ce l'éclair que ses grosses lunettes reflétaient en le doublant et le triplant. Simone avait remarqué qu'il en pinçait pour Julia, la mère du jeune homme. Il lui avait apporté du café et des biscuits minables. Mais à la voir et à l'entendre, cette femme allait lui donner une bonne leçon sur la vie ou le faire dégringoler dans l'escalier de la pointe de son soulier. « Portez-vous bien, Adam !» dit-elle finalement en se dirigeant vers l'appartement de sa mère. « D'accord, » répondit-il, comme pour prendre un engagement. Avant de disparaître, elle regarda encore un moment ses avant-bras nus et ses doigts et pensa « Des doigts comme ça, c'est fait pour tirer des cerfs-volants et des oiseaux en papier. » En descendant, elle laissa passage au nouveau locataire de Yarden qui portait un gros carton devant eux. C'était un jeune couple revenu de loin au judaïsme et désireux de résider dans la ville sainte, mais qui manquait d'argent pour s'installer au cœur de la place. Amikam et Tamar, ou en bref, Ami et Tami, les héros de l'histoire de la sorcière. Il rayonnait et lui adressait le sourire automatique avec lequel il est d'usage d'accueillir toute créature de Dieu. Le logement de Yarden et toute la maison ne se caractérisait pas par un regain de crainte de Dieu. Quand ils firent leur apparition en réponse à la petite annonce, avec le grand foulard noué sur les cheveux et l'immense calotte sur la tête, Yarden s'était dit « Mon appartement n'a jamais rien vu de pareil. » Elle éprouva de la satisfaction à leur louer le local. Sans doute, des gens qui s'excusaient de leur propre existence priaient et vivaient dans un sentiment constant de culpabilité et de redevance, prendraient soin de la maison et paieraient à temps. Le bébé reposait dans un kangourou qui pendait sur le ventre de la mère d'où il venait de sortir. Dan, qui tournait autour de la jeune femme et prenait des mesures, déclara « Vous allez l'étrangler comme ça, il manque d'air !» La mère caressa le bonnet qui enveloppait la pomme qui servait de tête à son nourrisson.
« Non, c'est une impression seulement. Il aime ça, ça lui rappelle quand il était dans le ventre. »
La fillette planta son regard sur le petit paquet de vie. Si on lui avait demandé son avis, elle se serait bien passée de Tel Aviv et serait restée là à les regarder. Enfin, il arrivait des miracles dans cette maison, y compris le lièvre et les cheveux noirs de la grand-mère qui avaient poussé en une nuit. Les miracles s'étendaient de la maison à la cour. Les géraniums faisaient des fleurs et laissaient encore voir de nouvelles pousses. Même les corbeaux effrontés qui attaquaient les jeunes plants et farfouillaient à l'intérieur prirent peur à la vue de la floraison intense et de la fièvre rouge qui frappait la cour. Ils délaissaient les buissons et passaient, le bec clos, retenant leur croassement jusqu'à ce qu'ils aient atteint les bouleaux. De là, ils braillaient contre le géranium qui cédait inconsidérément le vert pour le rouge. Après un long regard sur la cour, Simone entra chez sa mère et trouva la société en état d'effervescence. Johann avait fait un beau gâteau et des pains sans sel. Hanna Yon essayait des vêtements devant la glace et ses lèvres et ses yeux témoignaient d'un visible effort à utiliser du rouge à lèvres et un bâton de couleur.
Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Demanda-t-elle à Simone en montrant une somptueuse robe verte à parure d'or qu'elle avait achetée 5 ans auparavant à l'occasion du cancer qui lui avait fait faux bond.
Elle pensait qu'avant de se couvrir de terre pour l'éternité, elle avait bien le droit de s'offrir des petits plaisirs qu'elle n'avait jamais eus de son vivant et dont elle serait privée après sa mort. À part la robe, on remarquait aussi une énorme bague en or qui pesait comme 5 et un perroquet stupide qui, malgré les injonctions répétées de sa maîtresse, s'était toujours refusé à jurer « Cancer, cancer !»«
Alors, comment me va-t-elle ? »
Et elle tournait sur place, tout en se contemplant dans la glace.
« C'est quoi cette kermesse, maman ?»«
C'est pour Bruno, il arrive à 4h30. » Les yeux de la vieille s'éclairèrent et son visage s'empreint de paillettes d'or. Johann apparut sur le seuil de la cuisine, secoua ses mains enfarinées et déclara
« Bruno, c'est homme avec culture. Il sait quoi bien et quoi pas bien. »
Simone suivait sa mère des yeux. Celle-ci allait et venait entre la salle de bain et la chambre, émue, frétillante dans ses beaux atours, changeant, essayant, modifiant la position d'une épingle, d'une ceinture, d'un collier, d'une touche de fard.
« Va falloir la calmer avant qu'elle ne se mette un kilo de poudre sur la poire, se plante des dizaines de pointes de hérisson dans les cheveux et n'effarouche ainsi son invité. »« Maman, on dirait que tu es un peu amoureuse. »«
Un peu à la folie !»
Johann apporta des preuves à l'appui des dires de sa patronne.
« Madame Hahn a beaucoup de romantique. Elle va à Bruno toutes les semaines. Je l'emmène à la porte de Bruno. » qu'elle ne tombe pas dans l'escalier, et il n'y a pas de catastrophe, et on attend un peu, et Bruno ouvre la porte. Et il dit « Bail des amen, zuder et vemen. » Et puis « Entrez, s'il vous plaît. » Et moi, je dis « Non, je n'entre pas, merci, et je vais au marché Carmel et à la mer de Tel Aviv, et après 4 heures, je reviens au hospice et ramène Madame Hahn à la maison » par l'autobus de 5 heures. Le grand jour était arrivé. Tel Aviv venait à Jérusalem et Bruno arriverait à 4h30. Hanna Yon a sauté de joie et d'impatience dans son fauteuil et dans sa robe vert sauterelle. Simone a observé l'enthousiasme naissant dans le cœur de sa mère. Elle pensait que cette robe était grotesque et qu'il fallait lui ouvrir les yeux. Cette robe a quelque chose de dramatique, tu sais, maman. « Si Bruno aime le pathos, il trouvera ça très bien. Mais si c'est le contraire, il trouvera que tu exagères à bloc. »« De quoi dramatique ? Pathos ? Bruno va au théâtre ? Il va voir Shakespeare ? Il vient me voir, moi !»
Elle était en colère. Elle se regarda à nouveau dans la glace et affirma
« Il aimera ça. J'ai aussi des perles vertes qui iront très bien avec la robe. »
Elle chercha dans le tiroir à bijoux
et n'abandonna pas avant d'en avoir sorti le collier bleu-vert qui allait ajouter ses éclats à la splendeur générale. Simone se taisait et attendait qu'elle se redresse. Elle lui agrafa un bouton oublié et déclara « Tu es vraiment très élégante comme ça, maman !» D'ailleurs, quelle importance si Bruno aimait ou non le tape à l'œil. S'il venait de Tel Aviv pour la voir et qu'elle s'endimanchait pour lui, c'était là l'essentiel. Simone s'adossa au mur et elle sentit l'inquiétude monter en elle comme elle avait gagné les deux autres. Elle alla à la cuisine boire un verre d'eau et revint au salon. Allant et venant, elle pensait. Les gens s'habillent, se coiffent, s'émeuvent, se déplacent d'un endroit à l'autre, prennent l'autobus, voyagent, descendent, vont voir ceux qu'ils aiment, marchent avec eux, et toute la vie n'est qu'une grande bougeotte maladive. Yarden a bougé à Tel Aviv, Orna en Arizona, moi vers le nouvel appartement d'Orna, Ami et Tami, Julia et Adam ici. En fin de compte, nous bougerons tous vers d'autres rivages et de là ailleurs. Tant que nous vivrons, nous bougerons. Nous essaierons de forcer la destinée et nous bougerons. La mort commence quand on a fini de bouger, quand on s'assoit dans un fauteuil et quand on n'en bouge que pour manger, pisser et dormir. Quelle chance avait sa mère d'avoir quelqu'un pour qui bouger et qui bougeait pour elle. Simone s'en souhaitait autant à son âge. 4h-10 s'écria Hannah Yona, courant de la glace de la salle de bain à celle de la chambre à coucher et de là à la cuisine. Comme elle tournait comme une toupie, Johanna l'attrapa par le bras et ordonna « Madame Anne, il faut vous asseoir, comme ça, pas fatiguée quand Bruno viendra. » Hannah Yona ne regimba pas et s'assit dans son fauteuil de télévision. Elle était à peine installée qu'on sonnait à la porte. Bruno, 4h03. La vieille se redressa et planta un regard brûlant sur la porte. Johanna courut à la fenêtre, regarda et se signa en tremblant. Pas Bruno, dit-elle en montrant du doigt une luxueuse Mercedes garée devant le portail. Le véhicule était si pimpant que les chemises rouges de Simone se reflétaient sur le toit. La police, ajouta Johanna livide. Le deuxième coup de sonnette était plus impérieux encore que le premier. Les deux femmes suivirent d'un regard inquiet Simone qui se dirigeait vers la porte. Trois hommes étaient plantés sur le seuil. Celui du milieu semblait bien portant et costaud, avec des cheveux noirs style tube de teinture, vêtu en élégant sportif et rasé de frais. Il posa un sourire oblique sur ses lèvres et ferma un œil à moitié. Les deux autres se tenaient à sa gauche et à sa droite, ternis et pâles comme des figurants au cinéma. À la vue de ce visage jovial, Simone a endurci son ton et son visage. « Que voulez-vous ? » Il n'eut pas le temps de répondre que Hannah Yona se levait de son fauteuil et s'avançait vers la porte comme une lampe ambulante. L'éclat des verroteries et des paillettes de la robe illuminait la pièce. Elle croisa ses bras maigres sur sa poitrine effacée, se campa sur ses jambes comme un coq prêt au combat et déclara « C'est pas la police, Johanna. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis occupée, j'attends des invités. » « Et nous, on n'est pas des invités ?» Le costaud passa à l'intérieur une chaussure bien cirée qu'il posa sur le plancher de la pièce et fit aussi glisser la deuxième. « Ce n'est pas vous que j'attends, allez-vous-en !» La colère lui gonflait tantôt les veines du cou, tantôt celles des tempes. Elle porta le regard sur les pâles acolytes du visiteur. « Herz et Klein, qui c'est cet effronté que vous avez amené avec vous ?» Elle accompagna la question d'un mouvement de menton et d'un coup de coude dans les côtes solides et plates du nouveau venu. Le soulier ciré frappa le parquet et son propriétaire prononça. « Vous voulez vraiment savoir qui c'est l'effronté ?» « Sortez, levez le nez, c'est marqué là-haut sur les grues. » Bruchy indiqua la direction en question, mais Hannah Yona n'écoutait plus. Bruno allait arriver à 4h30 et il fallait chasser les intrus, laisser un moment pour l'accalmie et penser au rouge à lèvres. Elle réfléchit un moment et dit à Johanna : « Va chercher mon fils.
La Roumaine fit un saut qui la libéra du gel qui l'envahissait et alla chercher le locataire. Comme un soldat qu'on réveille au matin d'une bataille, ce dernier se traîna derrière Johann, vêtu d'un short antique, d'un tricot qui mettait sa bedaine en évidence et de chaussons de laine fripés aux fermetures déchirées. Il était mal coiffé et ses lunettes portaient des taches de gras. En apercevant les trois hommes, il resta bouche bée, la mâchoire suspendue à son double menton. La sueur coula de son visage, couvrit la clavicule, dégoulina sur la poitrine et s'infiltra dans les fibres du tricot. Trempé, défait et pitoyable, il avait l'air d'un chien qu'on aurait tiré de l'eau. « Il est mignon, votre gamin !» fit Brouchy en lui pinçant la joue, un sourire ironique aux lèvres, un œil à moitié fermé et l'autre trop ouvert. « Si la montagne ne vient pas à Mohammed pour lui donner son dû, eh bien, la montagne vient le chercher !» Brouchy éclata d'un rire lourd, plein d'une odeur âcre de cigarette. « Madame Yona, si cela ne vous convient pas maintenant, on reviendra. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Nous avons une proposition sans sas pour vous. Maintenant, sans vous commander, on va avoir une petite conversation avec votre fils dehors. Prenez-le, parlez-lui, faites ce que vous voulez, mais foutez-moi le camp !» Elle balançait la porte de gauche et de droite, mais la chaussure de Brouchy arrêta le mouvement. Le phare fondait à vue d'œil et coulait entre ses rides. Elle respirait bruyamment et elle étincelait de sueur et de paillettes. Brouchy fit une courbette théâtrale. « Merci pour votre accueil, Madame Yona. Avec cette robe, vous êtes encore plus Angelina Jolie qu'Angelina Jolie tout droit à l'Oscar. » Après un dernier éclat de rire, l'homme retira sa chaussure et ses comparses et sortit, suivi du nouveau locataire, humilié et abattu, marchant vers un colloque qu'on ne pouvait refuser. Hanna Yona claqua la porte derrière eux, puis elle la rouvrit et cria à la volée pendant qu'ils montaient dans la Mercedes. « Et vous deux, Herz et Klein, attendez un peu. On a déjà un lapin qui s'appelle Herz, on en aura bientôt un Klein. » Elle claqua à nouveau la porte et se laissa tomber sans force dans son fauteuil. Johanna s'affairait à essuyer le phare qui avait coulé. Il était 4h25.